Mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces nouvelles du monde pour le mardi 12 novembre. Pas mal de choses à vous proposer aujourd'hui, à se mettre dans les oreilles, et on va donc commencer sans plus tarder avec des nouvelles proches de chez nous, du territoire, des petites suites de différentes affaires administratives ou judiciaires dont je vous ai déjà parlé à l'antenne. Donc on va commencer tout de suite avec des nouvelles proches de Saint-Hippolyte-du-Fort pour ce couple de Géorgiens et leur famille Miranda et Gourami. Ils habitent donc sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort. Miranda, Gourami et leurs enfants étaient menacés d'expulsion. Ils ont apparemment gagné la première manche administrative judiciaire, en tout cas, puisqu'ils étaient déjà soutenus par une bonne partie du village et du maire. Cette famille de Géorgiens vient de voir le tribunal administratif annuler donc l'injonction du préfet, c'est la préfecture, qui les contraignait à quitter le territoire français. En effet, l'intérêt supérieur des enfants a primé. Jusqu'à maintenant, la préfecture a encore jusqu'au 8 décembre pour faire appel. Ils sont donc soulagés, mais attendent de voir, hein, quand même, en restant prudents. Ce sont les mots de Gourami qui a été interviewé, je crois, dans les colonnes d'Objectif Gare. Donc, en tout cas, le jugement du tribunal administratif annule toutes les décisions d'expulsion qui ont été prises par le préfet du Gard. Et en juin aussi, le représentant de l'État a délivré un titre de séjour au couple et à ses trois enfants dans un délai d'un mois. Donc, je vous le disais, la préfecture a donc un mois pour faire appel de ce jugement. A priori, les avocats et la famille doutent que la préfecture fasse cet appel, notamment en raison de l'aspect très motivé, hein, du jugement du tribunal administratif qui a mis en avant la méconnaissance de la part de la préfecture de la situation familiale et notamment du respect de la vie privée et familiale et donc de l'intérêt supérieur des enfants. Faire un retour en Géorgie serait catastrophique pour cette famille où leurs conditions de sécurité ne sont pas non plus plus assurées qu'au moment où elles l'ont quitté. La famille devrait en tout cas, donc si ça se passe bien, obtenir un délai d'un an qui n'est renouvelable que trois fois selon la nouvelle loi immigration. Et entre-temps, il faudra donc qu'elle demande un titre long de séjour qui, eux, ont une durée de 10 ans. On reste dans le Gard et des nouvelles cette fois-ci de ce maçon Nathan qui est appelé aussi l'enfarineur. Il avait enfariné le député Alexandre Allégret-Pilot au Vigan. Il passait en tribunal, ce mercredi 6 novembre. Il a refusé la peine proposée en plaidé coupable et sera donc jugé au correctionnel. C'était mercredi dernier donc qu'il était entendu au palais de justice d'Alès, soupçonné d'avoir enfariné donc Alexandre Allégret-Pilot, un député sciotiste de la 5e circonscription du Gard. C'était le dimanche 20 octobre au cours de la foire viganaise de la pomme et de l'oignon doux des Cévennes. C'était dans le cadre donc d'une CRPC, une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que le mis en cause était entendu, ce qu'on appelle le plaidé coupable, qui permet éventuellement d'alléger la lourdeur administrative et d'aller plus vite à l'issue donc du verdict. C'était à 8h du matin qu'il était entendu au tribunal, accompagné d'ailleurs d'une délégation de quelques dizaines de personnes en soutien. Il avait déjà été convoqué le 21 octobre et avait demandé un délai de réflexion, car la peine réclamée par le parquet était forte, hein, 6 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende, donc pour un jet de farine sur le représentant, le député donc, de la circonscription. Il était accompagné de son conseil et il a donc refusé la peine proposée. Il devra donc comparaître devant le tribunal correctionnel pour une audience normale, entre guillemets, le 5 février prochain. Il a expliqué sur les marches du palais aux journalistes que le parquet aurait pu baisser la peine, ce qui n'a pas été le cas, que donc il préfère s'expliquer devant le juge, car la peine réclamée est vraiment disproportionnée, dit-il. C'est pour ça donc une véritable audience au tribunal correctionnel aura lieu ce 5 février. Du côté du député enfariné, on attend les actes, la reconnaissance de cet acte en une agression d'un élu de la République. Il s'en est d'ailleurs plaint en largeur sur les bancs de l'Assemblée nationale dès le début de la semaine qui a suivi cet incident. Là, du côté du prévenu, on dénonce par contre une qualification erronée des faits et une provocation initiale du député Alexandre Allégret-Pilot. Celui-ci s'est d'ailleurs constitué partie civile dans ce procès. Si on peut lire ça dans les colonnes de Objectif Gare, pardon, ce compte-rendu. Il est précisé qu'il a été condamné à 800 euros d'amende il y a moins de 5 ans pour une bousculade lors d'une manifestation des Gilets jaunes, et là, sans plainte de la gendarmerie. Il est donc malgré tout disposé à prendre le risque d'un procès, car pour lui, là, justement, c'est la qualification des faits qui ne passe pas. L'énoncé, on parle de violence volontaire, et ce n'est pas quelque chose qu'il accepte. Il souligne d'ailleurs qu'il n'a pas approché le député de près, et donc aucun contact physique avec lui, et qu'à la limite, il aurait compris qu'on l'accuse sous le terme « outrage ». Pour ce qui est du député, il était à l'Assemblée nationale au moment de l'audience. Il était donc représenté par son attaché parlementaire, qui n'a pas souhaité faire de commentaires à l'issue de cette très brève audience. Donc, vers 10h du matin, les soutiens de ce député, à savoir des membres de la Ligue du Midi et Ludovic Bouy, le conseiller municipal de la Grand-Combe, se sont eux rassemblés dans la salle des Pas-Perdus, tandis qu'à l'extérieur, le comité de soutien du prévenu, lui, gonflait aussi ses rangs. Une soixantaine de personnes en tout, brandissant des pancartes hostiles à cet élu. Certains panneaux rappelaient d'ailleurs qu'Alexandre Allégret-Pilot était notamment sous enquête du parquet. Et excusez-moi, j'ai un petit problème d'impression, je cherche ma deuxième feuille, du parquet national financier, pardon. Une personne expliquait d'ailleurs aux médias présents que l'enfarinage n'était pas une violence, que c'était un acte symbolique. On ne veut pas de ce député, on n'est pas dans les Cévennes pour rien, on résiste. Et il ciblait aussi l'intervention de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a donc à l'Assemblée nationale commenté cet événement, puisqu'il a été pris à partie par le député lors des questions au gouvernement. Il a réclamé une peine exemplaire. Or, le ministre de l'Intérieur doit respecter le principe de séparation des pouvoirs, et en faisant cela, médiatiquement, donc, il a mis la pression sur la justice, ce qui laisse donc la possibilité d'un procès pas du tout équitable.
Allez, rembolle tout ça, Rémi, c'est écœurant à la fin.
On part maintenant dans les colonnes de Libération pour commenter l'automne social, comme il est coutume de le dire. Libé propose en effet un petit tour d'horizon des grèves, manifestations et autres mouvements de colère qui sont attendus cette semaine en France. Déjà confronté aux plans sociaux chez Michelin et Auchan, le gouvernement doit maintenant faire face à une multiplication d'appels à la grève à venir en France. Dans un contexte économique morose et sur fond d'austérité budgétaire pour 2025, et donc aussi d'incertitude dans de très nombreux domaines. Tout d'abord Paris, du lundi 11 au mercredi 13 novembre, donc des préavis de grève sans impact à la RATP. Et cela concerne l'ouverture à la concurrence pour les bus de la RATP. C'est ce qui a décroché cette préavis de grève de la branche CGT, qui voit dans cette ouverture un prétexte à des attaques incessantes sur les effectifs, sur les conditions de travail et sur les rémunérations. Ça couvre l'ensemble donc de hier, lundi 11 novembre, 19h, jusqu'à demain, mercredi 13, à 7h. Donc si vous comptez prendre le métro, dépêchez-vous. Jeudi 14 novembre, c'est la grève des pilotes de ligne. Le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne, appelle en effet à une grève et à un rassemblement devant l'Assemblée nationale ce jeudi, après le vote des députés par les députés d'un alourdissement de la fiscalité concernant le transport aérien. Pour eux, ce projet est une attaque sans précédent sur le secteur de l'aérien, ses emplois, sa compétitivité et sa pérennité. J'ai envie de commenter que ce n'est pas le seul danger qui pèse sur l'aviation en termes de pérennité. Bref, concrètement, ce dispositif va relever les tarifs de la taxe sur les billets d'avion. Pour des classes économiques, ça ferait une hausse de 2,60€ par passager, jusqu'à 9,50€ environ pour une destination en Europe, de 7,50€ à 15€ pour les destinations intermédiaires, et ça peut monter jusqu'à 40€ pour des destinations lointaines. Ce sont les estimations rapportées par le rapporteur général du budget, Charles de Courson. Ce mardi, en tout cas, les principales compagnies aériennes françaises ne prévoyaient pas d'importantes perturbations de leur programme de vol pour ce jeudi. Enfin, vendredi 15 novembre, on continue, ce sont les agriculteurs qui manifestent à nouveau leur colère, enfin une partie des agriculteurs. Une colère qui gronde à nouveau moins d'un an après ce mouvement qui avait en partie paralysé les grands axes routiers en France et accessoirement retourné les panneaux d'entrée dans les communes. Les actions symboliques ont donc repris ces dernières semaines, vous l'avez peut-être remarqué. Elles devraient s'amplifier après la mi-novembre, notamment à l'appel des syndicats majoritaires que sont la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Ceux-ci appellent à descendre dans la rue ce vendredi 15. Les agriculteurs sont durement frappés cette année par de mauvaises récoltes de blé et un regain de crise sanitaire dans les élevages. Ils réclament de pouvoir vivre de leur métier et attendent ainsi de la clarté sur les prêts garantis par l'État. Enfin, ils refusent catégoriquement la signature d'un accord de libre-échange qui est négocié entre l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Sud, à savoir le Mercosur. Et voilà, on termine ce petit tour d'horizon des mouvements sociaux de la semaine avec une grève à la SNCF pour la semaine prochaine, pardon, du 20 au 22 novembre. Les syndicats de la compagnie de rail SNCF appellent en effet à cesser le travail. Ça commencera le mercredi 20 novembre 19h jusqu'au vendredi 22 novembre à 8h. Et ils ont aussi lancé samedi un préavis de grève illimité à partir du 11 décembre, reconductible par période de 24h. Donc de quoi en tout cas faire craindre des perturbations du service pendant les vacances de Noël. Et ça reste quand même l'objectif principal d'une grève, de faire un petit peu peur. En tout cas, les représentants des cheminots, ils réclament plus précisément un moratoire sur le démantèlement de Fret SNCF. C'est la division qui est consacrée au fret ferroviaire, en protestant notamment contre les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales qui génèrent, disent-ils, du chaos. Et puisqu'on est dans les... La marmite gouvernementale des nouvelles lois, eh bien, une petite brève sur ce projet de loi finance qui, vous le savez peut-être, est en train d'être terminé de négocier dans un marasme absolu, avant certainement un passage au 49-3. Ce projet de loi de finance qui avait fortement inquiété les radios associatives, on vous en a longuement parlé le mois dernier, a priori, pour le moment, on semble être un petit peu... sauvé de l'affaire en tout cas pour l'année prochaine, c'est un report puisque les 10 millions d'euros qu'on pensait perdre risquent d'être rebasculés sur les tiers-lieux. En effet, une menace inédite plane sur ces lieux et associations assez nouveaux en France et qui pourtant ont le vent en poupe. En effet, dans un contexte de rigueur budgétaire où le gouvernement dit donc vouloir ramener le déficit public à 5% du produit intérieur brut, ce sont les crédits alloués à ces fameux tiers-lieux qui vont être réduits de manière drastique. Ça ne représente pas énormément dans le budget total, puisqu'ils étaient à 13 millions d'euros en 2024, et si c'est voté tel que c'est annoncé, ils tomberont à 2,5 millions en 2025. Passer de 13 millions à 2,5 millions, c'est sûr que ça fait mal, c'est une baisse de plus de 80%. Et ça concerne 3500 tiers-lieux en France. Ce choix les placerait donc dans une position très critique qui pourrait donc compromettre leur avenir. Les tiers-lieux, pourtant, ce ne sont pas de simples espaces partagés, mais des sources d'alternatives culturelles et écologiques, défendent ces associations du secteur. Ce sont des lieux de transmission et de solidarité, en milieu urbain comme en milieu rural. En coupant leurs moyens, cette loi met à mal tout cet équilibre et menace les missions de service public que remplissent les tiers-lieux au quotidien. Face à cette décision, donc, tous les acteurs des tiers-lieux se mobilisent et appellent l'État à maintenir les crédits de 2024 pour 2025. Ils rappellent que soutenir les tiers-lieux, c'est investir dans la lutte contre l'isolement, dans la cohésion sociale et le dynamisme des territoires. On retrouve un petit peu le même plaidoyer qui avait été défendu par les radios associatives il y a quelques semaines. Et on souhaite que l'issue soit la même, à savoir une reconduction du budget prévu initialement. Allez, ça faisait longtemps, on va parler un petit peu climat mondial. C'est le top départ des négociations, il a eu lieu hier, lundi 11 novembre. C'était dans le stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, et c'est la 29e conférence des Nations Unies sur le climat. Ce grand rassemblement est organisé donc dans un état pétrolier qui réprime les droits humains. Les chefs d'État et les diplomates discuteront principalement argent, avec en ligne de mire notamment le concept central de cette 29e édition de la COP, à savoir la notion de dette climatique. Dans une triste ironie du sort, en effet, les pays qui participent le moins au changement climatique sont aussi ceux qui en subissent les plus tragiques répercussions. C'est un euphémisme, mais c'est un petit peu un résumé du mondialisme capitaliste qui a lieu depuis plusieurs siècles, mais là c'est vraiment sur la question écologique et climatique qu'on s'y intéresse. Et à l'inverse, continue ce résumé trouvé dans les colonnes de Reporters, ce sont les États les plus riches, historiquement responsables, qui disposent des meilleurs outils pour s'en prémunir. Le souci est donc d'équilibrer un petit peu la balance, et la COP29 doit notamment pour cela déboucher sur un chiffre. Le chiffre de l'aide financière qui sera apportée aux pays vulnérables. Il s'appelle le Fonds pour pertes et dommages, et le but c'est que ceci puisse commencer des politiques d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique, avec donc un petit fonds pour alimenter tout cela notamment, parce que ça coûte de l'argent. D'après Rachel Clitus, qui fait partie du groupe de scientifiques états-uniens Union of Concerned Scientists, l'union des scientifiques concernés, l'objectif de cette tractation devrait être de viser un montant de 1 000 milliards de dollars par an. Mais la précédente enveloppe, qui avait été votée en 2009, s'élevait seulement à 100 milliards par an, donc 10 fois moins, et c'était pour la période 2020-2025. Et d'ailleurs, cette somme qui est 10 fois inférieure à celle qu'on évalue aujourd'hui, eh bien, elle a été que très 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 peu abondée. Les États contributeurs n'ont commencé à la régler qu'à partir de 2022, autrement dit 2 ans après l'année initialement prévue de 2020. Un petit peu long pour mettre la main à la poche. Et cet engagement est déjà largement en dessous de ce que nécessitera l'évolution annoncée de la crise climatique, puisque une chose qu'on sait bien faire, c'est voir les dégâts à venir et les chiffrer. Par ailleurs, une grande partie de cet argent, d'ailleurs, donc entre 2020 et 2025, a bien été donné, mais sous la forme de prêts et pas des dons, ce qui accentue encore un peu plus les dettes de ces pays déjà en grande difficulté financière. Encore pire, je vous en parlais la semaine dernière, la question de la finance nord-sud a précipité donc l'échec cuisant des négociations de la COP16 biodiversité qui s'est tenue en Colombie, où là aussi on cherchait à faire un petit bilan et savoir qui allait payer pour préserver la biodiversité. Aucun accord n'a émergé, je vous l'ai dit, et donc c'était ainsi que s'est passé un petit peu le relais justement de cette question de déséquilibre entre les pays du Sud et du Nord, on disait avant. Donc une COP16 de mauvais augure juste avant le coup d'envoi de cette COP29. En tout cas, c'est l'objectif des 1 000 milliards qui est toujours annoncé. Et si cet objectif est atteint, il faudra aussi trancher une autre question très douloureuse. Qui va payer ? La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les politiques d'austérité budgétaire en vogue dans de nombreux pays riches, on peut parler de la France, tout cela ne devrait pas faciliter en effet les débats. Les pays qui figurent sur la liste des contributeurs, à savoir les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Grande-Bretagne, le Canada, la Suisse, la Turquie, la Norvège, l'Islande, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, tous ces pays donc réclament que la contribution soit aussi élargie à la Chine et aux pays du Golfe. Et l'argent il existe, vous le savez, hein. C'est ce que avance en tout cas le réseau Action Climat, il suffit raison juste d'aller le chercher. Ils expliquent par exemple que la mise en place d'un impôt mondial sur la fortune, à savoir 2% d'impôts sur les 3 000 milliardaires de la planète, pourrait rapporter 250 milliards de dollars par an. Une mesure qui serait pour eux d'autant plus juste que sur ces 30 dernières années, justement, les 1% les plus riches ont émis 2 fois plus de carbone que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Une autre manière de trouver de l'argent, ça serait d'arrêter de subventionner massivement les énergies fossiles. Celles-ci ont été chiffrées en 2022 à 7 000 milliards de dollars dans le monde, pour ce qui est des subventions. La même année, d'ailleurs, l'industrie du pétrole et du gaz avait enregistré 4 000 milliards de dollars de revenus. Donc 7 000 milliards de subventions et 4 000 de revenus. Les pays du Sud auront donc en tout cas 15 jours pour tenter de faire entendre leur voix face aux lobbies fossiles qui s'infiltrent de plus en plus dans ces négociations. Petit rappel, en 2023, l'industrie pétro-gazière avait envoyé environ 2 400 émissaires à Dubaï. Ce qui fait plus d'individus, plus de gens, que l'ensemble de toutes les délégations des 10 pays les plus vulnérables. Et en plus, c'est des gens qui ont des moyens. Devant cette bataille inégale, d'ailleurs, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a cette année purement et simplement refusé de venir participer à la COP29. Si on rappelle d'ailleurs toujours la COP28 à Dubaï, elle s'était quand même terminée sur un accord jugé historique par des observateurs, puisqu'il avait été écrit noir sur blanc qu'il fallait une transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Et ça, c'était déjà une grande victoire. C'était écrit donc noir sur blanc dans le document final signé par les délégations. Seulement, eh bien, faute d'une décision entérinée sur le financement, toujours, de cette transition énergétique, qui coûte cher, hein, environ 1900 milliards de dollars par an pour les pays en développement coûterait cette transition énergétique, eh bien, vu qu'il n'y a pas eu d'accord, certains pays pourraient maintenant être tentés de faire marche arrière, s'ils y trouvent leur intérêt. Et en cela, justement, à la posture de l'hôte de cette conférence, hein, l'Azerbaïdjan, qui est lui-même un grand exportateur d'hydrocarbures, eh bien, sa posture sera examinée de très près sur ce sujet, puisque la présidence de ces grandes réunions mondiales a quand même un rôle politique à jouer. De la même façon, les États membres s'étaient engagés lors de la COP28 à faire des efforts pour limiter l'augmentation de la température mondiale à plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. C'est les seuils toujours de l'accord de Paris qui lui date de 2015. Eh bien, 9 ans auront suffi pour que ces paroles atteignent leurs limites. En effet, le 7 novembre cette année, les prévisions de l'Observatoire européen du climat, à savoir Copernicus, sont tombées. Et l'année 2024 est bel et bien en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, encore un record. Et ce fameux seuil donc des 1,5 degrés Celsius risque d'être franchi pour la toute première fois sur toute une année civile. Pour les organisations écologistes, les engagements pris sur la fin progressive de l'extraction des fossiles et les engagements contenus dans l'accord de Paris doivent donc absolument être au moins réitérés au cours de cette COP29 à Bakou. Et ceci d'autant que la COP30 qui elle se tiendra au Brésil, eh bien dans celle-ci, chaque pays aura pour tâche justement de livrer aux Nations Unies son plan national de lutte contre la crise climatique. Alors, vous le savez, depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle des États-Unis, cette équation s'annonce de plus en plus difficile. Le républicain a, par exemple, d'ores et déjà promis de lever les restrictions sur la production de pétrole, de gaz et de charbon, d'intensifier les forages en Arctique et de quitter l'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait aussi promis lors de son précédent mandat. Ainsi, pour Gaïa Fèvre, du réseau Agir contre le climat, pour le climat, nous devons continuer à nous mobiliser, à nous battre et à développer des solidarités avec toutes les populations vulnérables qui vont subir de plein fouet les politiques autoritaires et racistes de Donald Trump.
Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle.
Oui, je vous contrôle avec ces informations. Alors, on va terminer avec un petit compte-rendu de ce qui s'est passé à Poussan. C'était la semaine dernière, le jeudi 7 novembre, une réunion pour parler de LGV, la ligne à grande vitesse. LGV, peut-être ZAD, on va rester dans les acronymes. En tout cas, c'est cette question qui est posée par Jean-Philippe Vallespir, qui est journaliste et qui écrit dans les colonnes de Alter Midi, un journal qui existe aussi en format radio une fois par mois sur Escapade. La question est simple, et si la ville de Poussan devenait, dans les mois qui viennent, le symbole de la lutte pour un monde d'après ? C'était donc ce jeudi 7 novembre au foyer des campagnes de Poussan que se tenait une soirée animée par SNCF Réseau, à savoir une soirée ouverte au public pour des ateliers qui proposent en gros aux habitants du coin de devenir les architectes en herbe de ce projet. Il y avait des stylos, des panneaux, etc. Donc on a des ateliers de concertation citoyenne pour parler d'un viaduc. Un viaduc qui fera 30 mètres de haut et 1,4 km de long. Un viaduc qui s'installerait au bord de l'étang de Thau. Oui, car normalement, il va s'installer. Hein. Et la question n'était donc pas de savoir si les habitants étaient pour ou contre. La question était de savoir, en gros, quel look architectural il aurait. Car c'était en effet la DUP est tombée, la fameuse déclaration d'utilité publique est tombée, donc qui valide le projet, et elle permet donc au rouleau compresseur du développement de passer en toute légitimité, même si, nous dit l'auteur de ces lignes, la biodiversité en est victime, et la biodiversité est souvent victime de l'obsolescence des décisions politiques. En tout cas, pour Stéphane Lubrano, le directeur de la mission LNMP, ça veut dire Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, cet ouvrage sera certifié haute qualité environnementale. La salle entre rire et colère était électrique lors de cette réunion où il n'y a pas eu beaucoup de coloriage de fait. Ce que nous engageons ce soir, c'est un rapport de force, pas une simple contestation, disait par exemple Mathieu, qui est paysan du bassin de Thau. Et donc de nombreuses associations et citoyens étaient présents. De nombreuses de ces associations veulent d'autres propositions, mais pour ce militant, lui, eh bien, il fait partie de la coopérative intégrale du Bas-Santo. Il rejette toute alternative de tracé pour cette ligne à grande vitesse. Il défend ainsi une rupture nette avec la logique du développement et une vision assez claire et radicale. Nous voulons choisir nos propres conditions de vie, maîtriser nos productions sans entrer dans une logique industrielle absurde. Voilà un petit peu le ton donné dans cette salle, donc pas très très réceptive aux propositions d'architecture citoyenne. La maire de Poussan, Florence Sanchez, était elle aussi assez directe. Elle a dit « Nous votons contre une politique d'achat foncier scandaleuse qui favorise la spéculation au détriment de l'agriculture. » Et elle dénonce aussi un projet qui ne répond pas aux besoins de mobilité ferroviaire territoriale. Enfin, la maire de Poussan estime que cette ligne nouvelle Perpignan-Montpellier ignore les dégradations climatiques qui menacent actuellement la ligne actuelle et qu'à terme, les habitants du territoire n'auront plus la possibilité d'utiliser le train localement comme moyen de déplacement. Enfin, cet élu pointe également l'aspect financier pour l'État et les collectivités, avec notamment cette première phase à 2 milliards d'euros et le projet complet estimé à 6 milliards. Elle dit que dans le contexte économique actuel, ce type d'ouvrage devrait être abandonné. Ainsi, pour la maire de la commune, l'investissement de cette ligne bénéficiera surtout à des intérêts de grande vitesse transfrontalière, hein, du fret notamment, au détriment des besoins locaux. Dans la salle, on est plutôt d'accord, hein, décrit « on n'acceptera jamais ça, jamais », ont raisonné. Pour autant, dans cette réunion, 13 partenaires étaient présentés, donc 13 partenaires qui sont cofinanceurs des 6,12 milliards que représente cette nouvelle ligne Montpellier-Perpignan. À savoir l'État d'abord à 40%, les collectivités aussi à 40% et l'Europe avec 20%. Les protocoles d'accords financiers sont déjà bien avancés puisque 7 Aglopole Méditerranée, SAM, s'engagent à apporter 12 millions d'euros. Idem pour la métropole de Montpellier à hauteur de 85 millions. Et les 40% qui sont payés par les collectivités, ça va retomber sur nos têtes avec la Sécu et l'hôpital qui foutent le camp. Il y a d'autres priorités quand même. Le genre de commentaires qu'on a pu entendre dans cette soirée. D'autres inquiétudes locales, la source d'eau de Issanca, la petite commune d'Issanca qui est dans le secteur du bassin de Thau, puisqu'en effet, c'est là que le viaduc devrait voir ses piliers se planter, donc au-dessus du captage d'eau potable de la région. Le directeur de cette mission LNMP pour SNCF Réseau, toujours Stéphane Lubrano, assurait que le projet ne se réaliserait pas si des risques sur les ressources hydriques étaient identifiés. Des sondages supplémentaires sont d'ailleurs en cours pour garantir que les fondations, qui font quand même 12 mètres de profondeur pour ce viaduc, ne perturbent pas le champ calcaire qui protège la source. Et si nécessaire, dit-il, nous ajusterons nos techniques de construction. Face aux critiques qui qualifient ce projet d'obsolète et inadapté à l'urgence climatique, le responsable, donc, enfin le représentant du projet, a rappelé que le projet avait quand même évolué dans le passé, puisque c'est un projet qui date de 1989, mais qui a été réévalué entre 2009 et 2016, et dit-il en prenant en compte le changement climatique et la vulnérabilité des lignes classiques. Là, on peut aussi donner la parole à Jean-Guy Majourel, qui est vice-président de 7 Aglopole Méditerranée, donc toujours l'aglo de 7, et conseiller municipal à 7 d'ailleurs. Il expliquait qu'il s'attendait bien à ce qu'il y ait des débats vifs avec ce projet qui impacte fortement le territoire. Il explique avoir alerté la région, l'État et la SNCF en proposant un tracé plus proche de l'autoroute pour limiter les nuisances. Et enfin, il a souligné qu'il était dans une optique plutôt pragmatique où la résiliation des élus locaux en actant donc cette fameuse DUP, la déclaration d'utilité publique, malgré le fait que leur recours a été rejeté par le Conseil d'État. Il souhaite désormais, dit-il, que le territoire conserve son attractivité, notamment avec une meilleure intégration environnementale du viaduc et un accès à la gare TGV de 7. Voilà, donc finalement, on s'accommode de ce qui se passe. La parole est aussi donnée dans cet article à Félix Caron, le président de l'association ALT, Alerte LGV Thau, ALT, pour alerte donc, mais aussi pour alternative, puisque eux proposent d'autres solutions. Notamment, cette association plaide pour le gel et la révision du projet LGV. Donc, le président de l'asso explique les objectifs. Leur agenda, dit-il, c'est de mobiliser les citoyens pour les informer de l'impact de la ligne sur le territoire et de rallier les élus locaux pour obtenir donc un gel de ce projet. Ils souhaitent repenser l'infrastructure pour qu'elle soit plus écologique et moins coûteuse dans le contexte, bien entendu, de restrictions budgétaires. Félix Caron, donc c'est son nom, reste optimiste. et il rappelle que le premier coup de pelle est seulement prévu pour 2030 et que d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics. Et il explique ne pas rejeter le concept de grande vitesse, mais que le scénario retenu n'est pour eux pas pertinent. La volonté donc de cette association est de voir un projet réévalué pour mieux répondre aux enjeux actuels et aux besoins du territoire. Ce projet donc de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, telle qu'elle est conçue, elle promet en tout cas plus de 3 millions de voyageurs, soit 39 minutes en moins de temps de trajet entre Montpellier et Perpignan, 20 000 poids lourds en moins sur la 9, 160 000 tonnes de CO2 en moins par an. Tout ça est en tout cas dans la salle accueilli au cri de « c'est que de la com » et des éléments de langage. En effet, rien ne valide que toutes ces projections soient justes. Et en général, en termes de projets routiers ou de trains, les estimations de fréquence ou les effets rebonds sont souvent très 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 faux. En tout cas, ce qui est en revanche sûr, c'est que la SNCF Réseau a sous-estimé une de ses priorités, qui était de construire le projet avec le territoire. Les ateliers participatifs qui étaient donc prévus jeudi dernier ont été désertés. Les tableaux, feutres, post-it et autres petits outils de démocratie directe ont seulement permis de laisser quelques revendications qui donnent peut-être le là pour des mois à venir. À savoir, il y avait écrit 6 milliards pour quelques minutes, non à la LGV et ZAD partout. Voilà, allez faire un petit tour du côté de Poussin si vous voulez voir les prémices de peut-être encore un gros projet inutile et surtout écologiquement désastreux, remis en cause par la population. Si vous souhaitez voir de plus près, en tout cas, les pour et les contre, les plaidoyers des différents intervenants donc, sont disponibles en vidéo sur le site du média altermidi.org où j'ai puisé ces quelques lignes. Et d'ailleurs, ça sera peut-être aussi abordé, qui sait, dans leur prochaine édition radio qui a lieu, vous le savez sûrement, tous les premiers lundis du mois à midi sur les ondes de Radio Escapade.
Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Et voilà, on se quitte là-dessus les amis. Bonne journée, bon après-midi à vous. À jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien et attention au froid, ça picote un peu dehors.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.